Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. C'est la rentrée, on va reprendre donc les émissions en rythme régulier, une fois par semaine, et ça sera diffusé, comme d'habitude, le vendredi à 9h. Aujourd'hui, on va parler de culture libre. Pour ce faire, je suis avec Stéphane et Rémi de l'association Picassoft. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et on a le plaisir d'accueillir Yann Kervan. Bonjour Yann.
Bonjour.
Eh bien Stéphane, je te laisse la main pour cuisiner Yann.
Ok, c'est parti. Alors, bonjour Yann, tu es auteur et éditeur chez Framabook, qui est donc un éditeur associatif de livres sous licence libre. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous dire ce que ça veut dire un livre sous licence libre ?
Oui, alors comme tout ce qui est sous licence libre, ça veut dire que ce n'est pas le livre qui est libre, mais qu'a priori, on donne de la liberté au destinataire, au public. C'est-à-dire que les gens qui créent un livre sous licence libre ont décidé de donner au public, donc au lecteur, des droits a priori, c'est-à-dire des droits qui seront appliqués même si on ne demande pas l'autorisation. Normalement, par défaut, quand on crée une œuvre, quelle qu'elle soit, elle est sous droit d'auteur traditionnel. Et donc, ça veut dire que personne ne peut rien en faire sans l'autorisation explicite du créateur de ce contenu. Et là, la licence libre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que selon les droits qui ont été accordés, n'importe qui peut en faire ce qu'il veut dans le cadre de ses droits qui ont été accordés. Donc, il y a des licences de libre circulation qui permettent aux gens de les recopier, de les lire, de les distribuer comme ils veulent. Et il y a certaines licences qu'on appelle donc libres qui permettent également de reprendre le contenu, de le modifier, de le transformer, de se l'approprier, de le traduire. Voilà. Donc, les livres sous licence libre sont les ouvrages qui répondent à ces critères.
Mais alors si tout le monde peut librement les copier, les redistribuer, j'ai bien entendu, quelle est la motivation dans ce contexte des éditeurs, des auteurs pour participer à un travail qui ensuite va pouvoir être justement librement réapproprié par tout le monde ?
L'envie de faire de la culture, je dirais. C'est-à-dire que c'est un choix politique aussi, hein, bien sûr. L'idée, c'est de dire que justement la culture n'est pas un produit comme un autre. C'est aussi une façon, quand on fait de la culture libre, de dire que on n'est pas forcément d'accord avec le principe de la propriété intellectuelle. Et donc, la motivation quand on place son travail sous licence libre, c'est justement de participer à un commun culturel en se revendiquant de ses valeurs politiques.
Ok, donc d'essayer de proposer une autre façon d'accéder au contenu que celle peut-être qui est dominante avec les modes de fonctionnement marchands qui existent à l'heure actuelle.
Voilà, qui existent à l'heure actuelle et qui sont pas très vieux. Il faut quand même le dire, parce qu'on a l'impression que c'est un état naturel, il y a une certaine essentialisation des choses et on a l'impression que la propriété intellectuelle a toujours existé. C'est complètement faux, hein. C'est quelque chose d'extrêmement récent, ça a quelques siècles tout au plus. Et ça s'est diffusé de façon énorme depuis quelques dizaines d'années.
Alors, pour prendre justement, pour filer un petit peu le contre-exemple, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots le processus d'édition qui est mis en œuvre chez Framabook ? Donc, une fois qu'un manuscrit est accepté par le comité éditorial, il y a un comité éditorial, il y a un éditeur, je crois, qui va travailler avec l'auteur. Mais c'est quoi son travail ? C'est juste corriger des fautes d'orthographe ?
Non, justement, on est une vraie maison d'édition, c'est-à-dire qu'on a fait des soumissions d'un peu tous les types d'ouvrages, mais l'idée est vraiment de faire un travail d'éditeur qui est, pour moi, un travail d'accompagnement, finalement, du projet, de voir si le projet qu'on nous soumet nous intéresse, voilà, intéresse un éditeur bénévole, hein, puisque c'est une association, donc, Framabook n'est gérée que par des bénévoles. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent intéressé par le projet, qui a envie de l'accompagner ? Et ensuite, comme dans n'importe quelle maison d'édition traditionnelle, il va y avoir une discussion entre cet éditeur et l'auteur de façon à avancer sur le projet éditorial, l'aider à prendre forme. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas intéressé en général pour rééditer des choses qui ont déjà été faites ou pour prendre des ouvrages qui ont déjà été édités ailleurs et juste les imprimer, entre guillemets. On a vraiment envie d'accompagner finalement des auteurs, alors que ce soit des auteurs de fiction ou des auteurs techniques, et de travailler ensemble sur un projet éditorial de façon à arriver à un produit qui soit abouti, qui corresponde à un public.
Ouais, y a une aventure humaine hein, entre l'éditeur et l'auteur, un binôme qui se crée, ou bah, parfois il y a un peu plus de gens. C'est ce que tu mets en exergue là.
Ouais, complètement. Et justement, comme on est un éditeur associatif et que bah, c'est fait sur la bonne volonté des gens, hein, des bénévoles, ça permet aussi d'avoir vraiment une belle relation, je pense, qui se tisse. Quand on peut prendre les produits, parce qu'on n'en prend pas beaucoup, hein, forcément, puisqu'on n'est pas très nombreux, ça permet que dès l'instant où un manuscrit a été accepté, je pense que ça nous donne des bonnes conditions pour accueillir l'auteur, ce qui n'est pas forcément le cas chez un éditeur non associatif, où bah, on peut être soumis à des impératifs de rendement, etc. Et quelle que soit la bonne volonté et le souhait des éditeurs, enfin moi je travaille aussi dans l'édition traditionnelle, hein, je n'en ai pas du tout en cause. La qualité du travail qu'on peut y avoir, mais il peut y avoir des impératifs autres qui font qu'on est obligé de sortir un certain nombre de livres, par exemple, quand on est une petite maison d'édition pour pouvoir vivre, ou quand on est dans une grosse maison d'édition, quand on est éditeur bah, on a le supérieur qui nous dit qu'on doit prendre tant de dossiers par an et on n'a peut-être pas forcément le temps de prendre le temps qu'on aimerait. Et ben, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas soumis à un impératif de production, vu qu'encore une fois, c'est une association de 1901. Donc, quand on accueille un projet, on se donne les moyens de l'accompagner véritablement. Bon, on fait bien sûr la relecture de copies, la correction orthographique, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment de travailler avec l'auteur pour arriver à quelque chose qui nous satisfasse.
Alors, tu as évoqué, tu as utilisé plusieurs fois le mot projet. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail de ce qu'on peut trouver chez Framabook, on trouve des livres, évidemment, sur le libre et sur le logiciel libre. Hein. Je vais en citer un ou deux, mais il y a, par exemple, un Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Il y a un monde sans copyright et sans monopole. On trouve aussi des livres d'informatique. Il y a récemment un livre sur LibreOffice qui est paru. Hein. LibreOffice, c'est une suite bureautique alternative à celle de Microsoft Office. On trouve des bandes dessinées, hein. Moi j'ai une pensée pour Grisbouille qui permet à la fois de rigoler et de consolider sa culture numérique, mais il paraît aussi qu'on trouve des romans et même des romans historiques, est-ce que c'est vrai ?
Oui c'est vrai, moi je suis rentré d'ailleurs chez Framabook parce que je suis écrivain de romans policiers historiques et j'étais plus satisfait de la façon dont ça se passait avec mon éditeur traditionnel, alors non pas pour des problèmes relationnels avec mon éditeur, au contraire, ça s'est toujours très bien passé, mais comme je parlais des impératifs externes, j'arrivais pas à avoir le planning de sortie qui me convenait, en fait, parce que lui avait des impératifs de distribution, de diffusion, de trésorerie qui faisaient qu'il retardait beaucoup trop, à mon goût, les sorties. Et donc, j'ai eu de longues tractations, hein, bien que ce soit un ami, et on est toujours amis d'ailleurs, c'était quand même assez compliqué pour que justement cet éditeur accepte de me rendre les droits sur mon travail. Il avait un contrat d'exclusivité. Donc j'ai récupéré les droits sur mes romans policiers historiques et je suis venu voir Framabook en leur disant « Voilà, moi j'ai déjà été publié, j'aimerais republier chez Framabook les deux romans qui ont déjà été publiés. » Et ensuite, je leur ai dit « Si vous êtes courageux, j'en prévois 80 à peu près par la suite qui se passe au Moyen-Âge. » Donc ils ont rigolé en me prenant pour un fou. Puis là... Donc on en a déjà sorti 4 et j'en prévois encore 4 et j'espère que ça continue en même temps comme ça.
80, effectivement, je crois que ça va t'occuper encore quelques temps. Le plus récemment, tu as sorti le quatrième tome des aventures d'Ernaud. Tu nous en dis peut-être juste un mot, une petite phrase pour donner envie aux éventuels lecteurs.
Bah, c'est en fait mon héros, donc c'est au milieu du XIIe siècle. Mon héros est un jeune bourguignon qui part en Terre Sainte comme pèlerin et colon, qui va s'installer au royaume de Jérusalem. Qui est un type qui est extrêmement curieux, donc il mène les enquêtes les unes après les autres dans le royaume, tout en grandissant puis en faisant découvrir l'histoire de la période, qui est vraiment le sujet qui me passionne moi depuis plusieurs dizaines d'années.
Eh bien, merci beaucoup Yann, je les ai lus moi les quatre, donc je les conseille en toute subjectivité. Je te propose de rester avec nous pour le reste de l'émission, de nous interrompre quand tu le souhaites, et puis peut-être que tu auras, on va essayer de mettre en lumière quelques autres initiatives de culture libre, et puis si t'en connais une ou deux, eh bien je crois que c'est le cas, tu pourras intervenir.
Alors,
merci à toi. Peut-être pour enchaîner, question donc à Rémi et Quentin. Est-ce que la culture libre vous paraît importante de votre point de vue? Si oui, pourquoi? Puisque après tout, eh bien, acheter ses livres, ses CD, c'est pas forcément si mal.
Alors déjà, ça n'empêche pas d'acheter ses livres et ses CD. Moi, par exemple, le contenu culturel que je consomme, la plupart du temps, c'est du contenu libre. Et quand c'est un contenu que j'apprécie, par exemple des livres chez Framabook, bah, je vais aller les acheter. Donc même si c'est libre, que je peux les avoir gratuitement, ça n'empêche pas de payer les auteurs parce que je pense qu'ils ont fait un bon travail et qu'ils ont besoin d'être rémunérés. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est du coup que tout le monde y ait accès sans restriction parce que c'est de la culture. Et je pense que la culture, ça ne devrait pas être un bien marchand comme un autre. Déjà que je pense que le pain devrait être disponible pour tout le monde. Bah, la culture, j'arrive du mal à concevoir qu'on puisse concevoir la culture comme étant un produit marchand qui corresponde à des intérêts économiques. Il y a aussi le plaisir de partager. Bah, quand je vais lire un bouquin, je vais aller le prêter à des amis. Sauf que si j'ai qu'un exemplaire et que je dois le prêter à 10 amis, bah, le 10e, il va l'avoir dans un an. Alors que si c'est libre et que tout le monde peut le récupérer gratuitement, je peux juste dire à mes amis, bah, allez lire ce bouquin à tel endroit. Et d'autant plus, ce qui me gêne beaucoup avec la musique, par exemple, aujourd'hui, la plupart du temps, on consomme de la musique sur des plateformes comme Spotify, comme Deezer. Le problème, c'est que là, on n'a pas accès nous-mêmes à la musique. On est obligé de passer par ces plateformes-là, ces plateformes qui sont payantes, qui sont des plateformes privées, et qui, du coup, ont une puissance énorme sur le contenu culturel. Le jour où ils décident de ne plus publier un artiste, ben, on n'y a plus accès. On a pu voir le cas récemment avec je ne sais plus quel éditeur de livres en ligne, je crois que c'était Microsoft.
Ouais, c'était chez Microsoft.
Microsoft a décidé de retirer l'intégralité de sa bibliothèque de e-book, donc de livres numériques. Et tous les gens qui avaient acheté des livres sur cette plateforme-là ont perdu leurs livres. Donc ça me semble absurde aussi. Pour moi, si j'ai envie de lire un livre, je vais lire le livre. D'autant plus si je l'ai acheté, je ne peux pas concevoir qu'on me le retire.
On retrouve la thématique qui nous est chère et à Picassoft et qu'on essaye de travailler ici dans cette émission, qui est ce problème de centralisation de l'information, ici des biens culturels, par quelques acteurs. Yann a évoqué la question des licences, hein, des licences libres, et il nous a rappelé que le principe de la licence, c'est ce qui permet de donner des droits a priori, hein, sur le contenu. Et moi, je trouve que parfois, le texte d'une licence, même si c'est un texte juridique, eh bien, c'est parfois assez joli à lire et à commenter. Donc, je vais nous proposer à Rémi peut-être de nous parler de la licence art libre que l'on peut trouver sur artlibre.org. Est-ce que tu pourrais nous décrire les quelques mots de cette licence?
Ouais, alors je vais vous lire le texte. Avec la licence art libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l'auteur. Loin d'ignorer ces droits, la licence art libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l'exercice en permettant à tout un chacun de faire son usage créatif des productions de l'esprit, quel que soit le genre et leur forme d'expression. C'est la raison essentielle de la licence art libre, promouvoir et protéger ses productions de l'esprit, selon les principe du copyleft, liberté d'usage, de copie, de diffusion, de transformation et interdiction d'appropriation exclusive.
Alors on retrouve, hein, dans ces quelques mots pareil des mots-clés qu'on a l'habitude de voir ici, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que la notion de protection de l'œuvre est mise en avant, c'est-à-dire que la licence libre, c'est un moyen de diffuser, mais c'est aussi un moyen pour l'auteur malgré tout de faire valoir ses droits et de les protéger. Il y a une autre licence qui me plaît beaucoup, c'est la Copy Art, qu'on en trouve sur copyart.org, donc du art cœur en anglais, et dont le message est « Copying is an act of love, please copy ». Copier est un acte d'amour, s'il vous plaît, copiez. Pareil, Rémi, tu veux nous la lire en anglais et ou en français?
Ouais, alors. « People copy stuff they like, they don't copy stuff they don't like. » Les gens copient les choses qu'ils aiment, ils ne copient pas les choses qu'ils n'aiment pas. The more a work is copied, the more valuable it becomes. Plus une œuvre est copiée, plus elle prend de la valeur. Value isn't taken away by fans, it's added by them every time they copy it. La valeur n'est pas retirée par les fans, elle est créée par eux à chaque fois qu'ils la copient.
Je voudrais juste.
Vas-y, Yann.
Ouais, parce que moi j'aime beaucoup aussi la copy art qui a été initiée par Nina Palais, hein, une illustratrice très intéressante d'ailleurs, qui illustre son travail. Le problème d'une certaine licence de ce type, c'est que d'un point de vue strictement légal, elles ne sont pas forcément efficientes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des licences. Alors, la copy art, je ne me souviens plus.
Il y a des licences. Tu as raison, oui.
Genre la What the Fuck Public License, ou. Elles n'ont pas finalement tout le jargon, on va dire, juridique, qui fait que ce ne sont pas des vraies licences libres. Et donc, du coup, la personne met ça pour s'amuser ou parce qu'elle trouve le texte beau. Mais finalement, d'un point de vue strictement légal, ça ne protège pas les destinataires en réalité. Donc, moi, ce que je dis, si vous avez envie de mettre sous une licence, on va dire par exemple de copy art, je ne me souviens pas hein, si légalement elle est vraiment solide, mais si vous n'êtes pas sûr, bah, vous pouvez mettre la copy art et la doubler d'une autre licence. Vous pouvez mettre copy art CC BY aussi. Vous pouvez mettre les deux. Comme ça, au moins, vous faites de la publicité pour la copy art, parce que c'est une jolie licence, mais en même temps, vous êtes sûr de garantir les droits. Voilà, si vous voulez mettre la What the Fuck licence, vous pouvez le mettre, et en même temps, vous mettez une CC 0, si vous voulez. Mais au moins, vous êtes sûr que d'un point de vue strictement légal, les destinataires sont protégés. C'est vraiment ça l'assurance.
Mais merci Yann de cette proposition, et en effet, ça nous permet aussi peut-être de rebondir sur ce petit mot que Rémi nous a lu à la fin de la licence art libre, l'interdiction d'appropriation exclusive. Les licences libres permettent aussi ça. Elles permettent on peut licencier un contenu sous plusieurs licences. Donc le fait de mettre quelque chose sous licence libre, ça n'empêche pas de le relicencier différemment, et y compris de le relicencier sous une licence propriétaire ou payante. Hein. Donc ça peut être à un moment aussi une stratégie pour un auteur ou un éditeur de diffuser de l'information sous licence libre, et pourquoi pas à un moment, dans un second temps, eh bien de le licencier sous une licence qui serait peut-être plus rémunératrice pour lui.
En effet, juste pour revenir sur la copy art, sur leur site, ils demandent dans la FAQ, il y a une question qui demande si c'est légalement
opposable.
Voilà, exactement. Et ce à quoi les auteurs répondent probablement pas, mais vous pouvez tester en mettant votre travail sous licence copy art, en faisant un procès à quelqu'un qui l'a copié et en voyant ce que le juge décide.
Ok, donc effectivement, en attendant, le conseil de Yann est à prendre. Donc si jamais vous voulez mettre du contenu sous licence libre, il y a effectivement la licence art libre, les licences Creative Commons, qui sont aujourd'hui des exemples tout à fait efficaces et qui ont déjà fait leurs preuves, notamment occasionnellement devant des tribunaux.
Juste, si je ne me trompe pas, la art libre, il me semble qu'elle a été aussi conçue pour être bien compatible avec le droit français. Donc là, on est sûr qu'en France, c'est... Je ne sais pas, Yann, si tu as des précisions là-dessus.
En fait, la licence art libre a été créée même avant les Creative Commons, qui sont issus du monde anglo-saxon. Parce que, en fait, la propriété intellectuelle dans le domaine anglo-saxon américain en particulier et la Convention de Berne dont la France ressort, c'est un petit peu différent. Et donc, la licence art libre avait été créée par des Français. Donc, celle-là, on sait qu'elle est parfaitement compatible. Je ne sais pas si elle a été éprouvée, par contre. Les licences Creative Commons, donc il y a plusieurs variations au sein des licences Creative Commons, elles ont été éprouvées aux États-Unis, il me semble, mais par contre, je ne crois pas qu'il y ait eu de jugement en France. Donc, ça reste toujours sujet à interprétation le jour où il y aura eu jugement. Quoi.
Alors, pour repartir un petit peu du côté juridique et revenir sur des exemples de culture libre, j'ai été creusé un petit peu et je vais vous proposer 2-3 exemples auxquels vous pouvez réagir et que Yann, notamment, sera invité à compléter. Alors, un des premiers exemples de films libres que j'ai eu l'occasion de voir, c'est The Yes Men Fix the World. En fait, c'est l'histoire ceux qui ne connaissent pas les Yes Men, hein, ce sont deux personnages américains, et c'est l'histoire d'une série d'impostures que ces deux personnes vont mener. Hein, donc c'est un documentaire, hein, ce sont des impostures réelles. Ce sont donc deux activistes qui ont mené un grand nombre d'impostures de ce type-là, qui cherchent notamment à montrer des absurdités du système économique américain. Et il y a un certain nombre de coups mémorables dont certains sont dans ce film. Je vais en citer un parce qu'il je le trouve vraiment marquant, mais ils ont réussi à se faire passer pour des porte-parole de l'entreprise Dow Chemical et à passer sur la BBC en direct. Donc Dow Chemical, c'est une multinationale du domaine de la chimie qui avait racheté l'entreprise qui était responsable de la catastrophe de Bhopal en Inde, catastrophe qui avait fait plusieurs dizaines de milliers de morts en 1984. Et donc ils ont pris ils ont réussi à prendre la parole en direct sur BBC pour annoncer ce qu'ils auraient souhaité, évidemment c'était pour de faux, mais voilà, qu'ils allaient entamer un processus de dédommagement qui engageait plusieurs milliards de dollars. Donc vous pouvez trouver ce film, j'espère que je vous ai donné envie de le voir, qui s'appelle sur le site theyesmen.org, et puis on va en mettre à disposition une copie également sur culture.picassoft.net. Alors comme vous le voyez, comme c'est un film qui est sous licence libre, eh bien on a l'autorisation, a priori, les Yes Men nous l'ont donné à nous et au monde entier, d'en faire une copie et de la redistribuer, et donc ce que l'on va s'empresser de faire. Peut-être Yann, je peux te laisser donner un exemple à ton tour et je reviendrai après.
Il y a une artiste qui s'appelle Gwen Simmel, que moi j'avais beaucoup suivi, qui est une artiste peintre, qui fait des vlogs depuis pas mal d'années. Je trouve intéressant parce qu'elle parle beaucoup justement de la façon dont elle appréhende son travail en tant qu'artiste libre. Elle fait ses vidéos en plus en français et en anglais parce qu'elle est complètement bilingue. Elle explique justement comment petit à petit elle en est venue finalement à laisser les images de ses tableaux vivre leur vie, indépendamment justement du revenu qu'elle aurait pu en tirer en vendant ou en copyrightant. Voilà, la diffusion. Et donc, je trouve assez intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'elle avait fait une conférence TEDx à propos de ça il y a quelques années. Et donc, TED lui avait demandé de remplir un truc comme quoi, justement, il fallait qu'elle protège, les droits, voilà, de sa diffusion et tout ça. Donc, elle s'est un petit peu agacée contre TED en disant je viens faire une communication pour dire que la propriété intellectuelle, je n'y crois pas. Ils me demandent de remplir un papier comme quoi je leur cède tous les droits sur la vidéo. Quoi. Enfin, c'est ça, celle de l'autre. Puis, bon, elle est vraiment très intéressante. C'est une petite vidéo très courte. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Gwen Simmel.
OK. Second exemple de mon côté, tout à fait également subjectif, parce que c'est un ami à moi, qui sous le pseudo de Soualtam propose également sous licence Art Libre donc des lectures de livres de philosophie. Donc vous pouvez trouver ça sur le site qui s'appelle lecture-audio.fr. Donc il y a une quinzaine d'ouvrages, je pense. Et sauf si évidemment vous retrouvez vos classiques, allez là où vous êtes porté. Mais si vous découvrez un petit peu, moi je vous conseille sa lecture de Marc Aurèle, très accessible et qui contient des perles en termes de leçons de vie. À toi, Yann.
Oui, je ne vais pas faire la retape pour mes copains de Framabook, hein, parce qu'il y en a plein. Vous pouvez aller voir sur le site de Framabook, mais je voulais pas.
1, 2, 3, on a perdu Yann.
Allô,
oui, m'entendez ? Tu es revenu. On en était à ça recoupe, ça coupe pas, non, c'est bon. On en était à
Je voulais parler de David Revoy, donc les libristes connaissent bien, qui est un graphiste, illustrateur, qui fait une BD qui s'appelle Pepper and Carrot, qui est l'histoire d'une petite sorcière et de son chaton. Donc David fait aussi beaucoup de visuels pour l'association Framasoft. Et en dehors du fait que c'est un gars bourré de talent, très gentil, magnifique BD, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un francophone qui a réussi à trouver un modèle économique que David vit de sa production de BD. Il est même édité chez Glénat, c'est-à-dire que Glénat publie ses BD qui sont sous licence libre, parce qu'ils ont découvert après coup que voilà, c'est un artiste qui marchait bien, hein, puisque je viens de regarder, là, il gagne un peu plus de 3 000 dollars, entre 3 et 4 000 dollars, je pense, entre tous les revenus par épisode de Pepper & Carotte. Et donc Glénat est venu le voir pour lui demander s'il serait intéressé pour être publié chez eux. Et après, d'autres éditeurs vie. Et donc, David, il continue à produire sous licence libre, donc c'est-à-dire c'est ses bails, hein, Creative Commons, juste attribution, il faut juste dire que c'est de lui. Et malgré ça, en publiant sur son blog, en traduisant dans plein de langues, juste en publiant sur son blog, bah, finalement, il y a des éditeurs qui sont venus, qui ont vu que c'est intéressant, qui ont publié, et qui se sont sentis un peu moralement obligés de lui donner quand même un peu d'argent, finalement. Même si, d'un strict point de vue légal, ils auraient très bien pu prendre et ne rien lui donner en retour. Je crois qu'il y a des éditeurs de jeux qui l'ont fait, y compris ses visuels, qui n'ont même pas offert une boîte de jeux. Mais là, pour le coup, la plupart des éditeurs qui l'ont publié, finalement...
Ils ont fait un retour. Ils ont proposé un retour.
Ils ont fait un retour, et non seulement ils ont fait un retour, mais Glénat a publié plusieurs tomes maintenant, et Glénat lui commandait une illustration de couverture originale pour la BD. Et ben maintenant, ils acceptent même que leur couverture, le dessin original, que David le mette aussi sous licence libre. C'est-à-dire que ça a pénétré Glénat, qui n'est pas l'éditeur le plus facile d'un point de vue administrative en France, ça a permis finalement à un éditeur très traditionnel de faire de l'édition libre.
Ok, super, super exemple. Un autre exemple que j'ai récupéré du Framablog, que je ne connaissais pas, que je suis allé voir pour la préparation de cette émission, que j'ai trouvé aussi super, super intéressant, c'est storyweaver.org.in. Donc, c'est un site indien qui offre des histoires pour enfants, en fait, des histoires pour enfants sous licence libre, donc sous licence Creative Commons by. Il revendique au moment de l'article plus de 12 000 récits et plus de 2 millions de lectures. Donc, j'ai vu que des membres de Framasoft avaient contribué, puisque donc du coup on peut contribuer, par exemple en traduisant un certain nombre de ces histoires. Donc je trouve que c'est une belle histoire, une belle aventure. Quand mon fils était plus jeune, eh bien je cherchais un petit peu ce genre de choses. Ça peut être vraiment intéressant pour apporter de la culture libre aux enfants. Est-ce que Yann, tu as encore un ou deux trucs sous la main, ou est-ce qu'on passe peut-être à la musique?
J'ai réussi à être concis pour une fois, donc je vais aller à l'encontre de ma réputation et rester concis.
On va garder ça et le marquer d'une pierre blanche, en te remerciant infiniment pour tout ça. Peut-être juste en conclusion, je vais citer le site framalibre.org qui contient une section culture, donc dans laquelle on peut trouver tout un tas de choses. Et on y trouvera par exemple le site docmazic.net, qui est donc un site de musique libre. On trouve énormément de choses. Et d'ailleurs, on va écouter juste après que peut-être Rémi nous ait donné le quiz, on écoutera un extrait d'une musique que l'on trouve sur Dogmazic. Mais peut-être qu'on va lancer le sujet du quiz avant, Rémi.
Alors juste, je vous court-circuite, juste avant de lancer le quiz, on pouvait aussi mentionner, donc c'est Audrey qui nous a envoyé, Audrey de Picassoft, qui nous a parlé de ce documentaire, le documentaire Démocratie de Datagueule, qu'on peut retrouver sur peertube.datagueule.tv, et que, à titre personnel, je vous conseille. Et aussi, sans aucune complaisance, moi je connais très peu de... Enfin, j'ai lu très peu de livres ou vu très peu d'œuvres sous licence livre, mais la dernière que j'ai lue, c'est le roman Trace de Stéphane, et je vous conseille très fortement de le lire si vous aimez bien... on va dire, allez, la science-fiction en général, et un peu l'anticipation, les IA, la Picardie, ce genre de choses. Rémi ?
Merci, Quentin. Du coup, le petit quiz. Alors, imaginez que vous venez d'enregistrer votre premier morceau de votre groupe de musique et vous avez envie qu'un grand nombre de personnes le découvrent parce que vous avez fait un truc super et que vous voulez le partager. Vous avez entendu parler de culture libre et ça vous a semblé intéressant et ça, c'est ce que vous voulez faire. Du coup, pour que votre œuvre soit une œuvre de culture libre, vous devez 1. Demander l'autorisation à un éditeur de musique libre d'accepter votre contenu. 2. Publier votre musique sur les réseaux sociaux en demandant aux utilisateurs de vous demander l'autorisation pour utiliser la musique. Ou 3. Publier sur le web votre morceau en y ajoutant une mention comprenant votre nom d'auteur et la licence que vous voulez utiliser, ainsi qu'un lien vers la licence.
On vous laisse réfléchir pendant la musique que va nous lancer Quentin et nous annoncer Quentin.
Alors oui, donc ce sera le titre Minty du groupe qui a choisi un nom décidément difficilement prononçable. Donc je vais dire, on va essayer Asthma, qui est un groupe de Montpellier. Donc vous pourrez retrouver évidemment le lien avec tous les liens d'émission sur radio.picassoft.net. C'est parti. We'll be right back.
On est de retour, donc après cette musique libre du groupe Asma, et donc on a Rémi qui va nous donner la réponse au quiz.
Voilà, donc le quiz, je rappelle, vous venez d'enregistrer votre premier morceau de musique et vous voulez le partager. Les trois options étaient de demander l'autorisation à un éditeur de musique pour le publier. La deuxième était de le publier en demandant aux utilisateurs de vous demander l'autorisation pour la réutiliser. Et la troisième option, qui était donc la bonne, était de publier votre morceau sur Internet en y ajoutant une mention comprenant votre nom d'auteur, la licence libre et un lien vers la licence. Alors, les licences, il y en a plusieurs, on les a citées, il y a Creative Commons, il y a Art Libre. Vous pouvez regarder un petit peu tout ça en détail. Mais, donc on n'a pas besoin d'un éditeur, ça peut quand même être bien de se rapprocher d'un éditeur s'il y en a dans votre domaine. Pour l'accompagnement, ce que disait Yann, c'est quand même assez bien d'avoir quelqu'un pour vous aider à faire ça, qui a l'habitude de faire ça. Et il faut aussi une licence pas trop obscure, parce qu'il ne faut pas demander aux gens de se taper 25 pages de licence avant d'utiliser. C'est pour ça qu'utiliser des licences comme Creative Commons ou Art Libre peut sembler assez intéressant. Après, il y en a plein d'autres aussi, vous pouvez regarder avec une petite recherche sur Internet.
Merci Rémi. On retrouvera tous les liens sur le site radio.picassoft.net. J'en rementionne un ou deux. Framalibre.org pour découvrir plein de choses. Framabook.org pour donc d'excellents livres. Lecture-audio.fr pour un peu de philo à emporter dans sa voiture ou dans le métro. Docmazic.net pour tout un tas de musique. Et on a cité également d'autres choses. Et je rementionne culture.picassoft.net que l'on va donc utiliser pour mettre à disposition un certain nombre de choses.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane, Rémi et Yann d'avoir été avec nous. Je pense qu'on va, conclure là-dessus, à moins que quelqu'un ait un petit mot de la fin à rajouter. Eh bien, ça m'a l'air bon. Bonne journée à tous et
au revoir,
à bientôt.
Au revoir à tous, au revoir. Au revoir.